ça, vous pouvez l'emmener dans votre poche, vous voyez, quand vous voyagez, quand vous partez en vacances. Moi, je l'emmène avec moi, parce que c'est des choses à lire, justement, à mon avis, en permanence. Et donc, c'est très curieux, je sais, il faudrait voir si quelqu'un a... Même Claudel ne l'a pas fait, ça ressemble à du Saint-Jean de la Croix. Igiture, ce qui lui est arrivé, la nuit, hein, la Igiture ou la folie d'El Bénon. Hein. Alors, il y a une petite épigramme comme ça de Mallarmé qui dit ce conte s'adresse à l'intelligence du lecteur qui met les choses en scène elle-même. C'est typiquement, vous voyez, c'est la théorie de la lecture que je vous dis. Lire, c'est inventer, c'est mettre la lecture qu'on veut, parce qu'on ne sait pas très bien ce que l'autre a voulu écrire. Ce conte s'adresse à l'intelligence du lecteur qui met les choses en scène elle-même. C'est bon. Et là, alors, dans la topologie, ça devient, je dirais, on ne peut pas le rater. C'est illisible si on n'y met pas du sien. Il faut inventer la lecture. Lire, c'est inventer. Le savoir, d'ailleurs, c'est le savoir, contrairement à la parole, qui a affaire à la vérité, c'est-à-dire à la posture, à l'autorité, à la fonction imaginaire du phallus symbolique, qui devient symbolique du fait du langage. Là, le savoir, ça a trait à l'écriture. Et dans les deux cas, que ce soit la parole ou l'écriture, il faut lire. Et l'écriture, c'est une invention aussi. La parole, non, il n'y a pas d'histoire de la parole, puisque les animaux parlent, donc on ne peut pas trouver l'origine de la parole. On ne sait pas. Ce qu'il y a, c'est que l'enfant, il rentre dans le langage par le trauma, par la vie. Et Joyce, lui, il rate ce croisement-là, et du coup, son corps s'en va. S'en va de cette manière-là. Alors, c'est pour ça que Lacan propose de parler de l'œuvre de Joyce comme son style et qui serait quelque chose qui va coincer cette erreur ici. Et au lieu d'avoir bien fait le croisement à l'infini, entre les deux droites infinies du départ, qui étaient des droites infinies. Donc il y avait. Lacan est fondé de dire que ceci c'est bien le nœud boroméen, mais encore faut-il ne pas rater le croisement à l'infini. Ça c'est le boroméen moyennant ça. Si on le rate, un des ronds s'en va. Et il y a un enlacement. Vous voyez, regardez, quand vous retirez ce rond là que j'ai déformé, ce rond que j'ai déformé ici, que j'ai tiré, j'ai touché celui-là. Quand j'enlève ça, qu'est-ce qui reste? Il reste deux ronds enlacés. Ce qui montre bien que Joyce est bien le symptôme, comme dit Lacan dans son écrit sur Joyce, c'est pas du tout le symptôme, c'est le symptôme. Donc il a écrit le symptôme, Joyce le symptôme, il dit c'est son nom comme Jésus Lacaille, jeune homme, hein, dit Lacan. Joyce est le symptôme et pas le symptôme. Et le séminaire qui s'appelle Le Symptôme traite de Joyce. Et pourquoi? Parce que le symptôme, c'est Don Quichotte. Qu'est-ce que c'est que le symptôme? C'est donc un ancien système de production qui survit dans un nouveau système de production. Et le prototype en littérature, c'est Don Quichotte. Cervantes qui est en train d'ouvrir, comme ce sera le cas en française avec Rabelais, ce qui va devenir le roman moderne avec le héros psychologique, vous voyez. Donc Quichotte, c'est plus du tout le héros, c'est plus du tout les chevaliers de la table ronde, qui étaient des types. Ivan Noé, Yvain, chevalier à la charrette. Tristan, va détourner Isolde. C'est pas des personnages, c'est pas des personnages comme Don Quichotte qui apparaît, qui voit ces personnages, c'est pas les personnages de Stendhal, c'est pas le même roman. Donc c'est très didactique ce que dit Lacan sur le symptôme. Le symptôme, ancienne manière d'écrire avec les lettres latines, nouvelle manière d'écrire avec le grec. C'est un bon exemple à l'époque qui intéresse Marx, que c'est Marx qui a inventé cette notion de symptôme, cette définition du symptôme que l'ancien système de production survit à l'intérieur du nouveau et le domine même. C'est ce qui se passe dans la psychanalyse actuelle, vous voyez. On est en plein dans le symptôme Joy. C'est pas Joy qui est en homme, c'est Freud. Pour la psychanalyse lacanienne, le symptôme, c'est Freud. Et Lacan, il a fondé la psychanalyse freudienne. Parce qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est pas la peine de faire la psychanalyse lacanienne si la psychanalyse freudienne, on commence à faire les malins en disant ah, nous, on va corriger Freud, on va l'améliorer. Tout ça. Bon, il y a des erreurs dans Freud, je vous ai parlé de l'homo loup. Mais il faut fonder la psychanalyse freudienne, même avec ses erreurs, même avec ses défauts. Mais on n'est pas obligé de se complaire là-dedans, hein. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Vous voyez, tous ces crétins-là qui sont en train de se complaire dans le fait que. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est en quoi justement Lacan, il a une position que vous pouvez lire dans un numéro de Quarto. C'est très intéressant, c'est le deuxième numéro de Quarto. Dans le premier numéro de Quarto, Lacan, il est allé à Bruxelles pour dire du mal, pour parler de la psychanalyse, comme il dit en venant à Paris. J'en ai parlé pas dans les meilleurs termes. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le premier numéro de Quarto, même Jean-Paul et ses amis ont. Paul Gilson et ses amis ont créé Quarto à cette occasion. Lacan est allé, il a passé une frontière pour aller dire du mal de la psychanalyse. Il ne pouvait pas le dire à Paris. Quand il revient à Paris, il dit, j'ai parlé de la psychanalyse, pas dans les meilleurs termes. Et qu'est-ce qu'il dit? De la psychanalyse, il dit, la psychanalyse, c'est peut-être une escroquerie et ça me rend malade parce que j'ai un surmoi comme tout le monde. Donc dans le deuxième texte, on dit qu'il y a sur moi tout le monde, tout ça me rend malade. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rendus, qui ne sont pas malades. Moi, ça me rend malade aussi, ça m'a fait m'exiler à l'autre bout du monde. Je ne supporte pas moi, le fait qu'on se complaise, qu'on se vautre dans la psychanalyse freudienne et qu'on ne veuille interdire que la psychanalyse lacanienne, de Lacan, c'est-à-dire que le symptôme se développe. Puisqu'on veut absolument bloquer le symptôme et s'en tenir au symptôme. Et si vous lisez ce second texte de Lacan, qui est donc son commentaire à Paris de son petit discours à Bruxelles sur la psychanalyse comme escroquerie, éventuelle, peut-être, pourquoi je suis malade, et bien vous verrez que la première partie de ce deuxième exposé qu'il a fait à Paris et qui est paru dans le numéro 2 de Quarto, ben vous verrez qu'il dit très bien au début, il décrit la psychanalyse comme une catastrophe. Là, il ne dit pas que c'est une escroquerie, mais il parle de la loufoquerie analytique. Il parle du sens et de la manière dont on injecte du sens et dont on interprète. Et, donc, vous voyez, tous ces espèces de crétins qui sont d'une niaiserie d'un point de vue, je ne sais pas, moi, il ne s'agit pas d'épistémologie, il s'agit de simplement de raison, qui d'un point de vue philosophique ou épistémique, même pas, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais la raison. Ils sont d'une niaiserie. Regardez le pauvre type qui est là, qui fait des ronds de l'herbelle. Heureusement, vous ne pouvez pas le voir, parce que ce n'est pas publié en français, c'est publié à Buenos Aires. Il y a tous les séminaires argentino-militaires. Si vous lisez ça, le Meunier, un point de cœur de la logique, vous verrez qu'on comprend que même le Goffet puisse écrire des bêtises, parce que le Goffet, c'est quand même déjà beaucoup mieux que ce que fait l'autre Blum. Non, il faut le lire, hein, pour le croire, parce que vous savez, il vous met des ronds de l'herbène. Vous voyez, les ronds de l'herbène que je mettais tout à l'heure avec le point de Capiton sur la sphère, il va vous en mettre des tonnes comme ça. Et puis il y en a un qui s'appelle A, et l'autre qui s'appelle D, il y en a un qui s'appelle X. Bon. Bah, lisez l'exposé dans la logique du fantasme sur la logique de Boulle, par exemple. Le type, il est incapable, il parle de loi de la pensée. Hein. X2 égale X. Mais il est incapable de même d'avoir noté que X2 égale X, dans Boulle, ça implique ce que je vous ai montré l'autre fois, la semaine dernière, que 2X égale 0. Rien de cette petite implication, incapable. Lacan, il devait voir du kilé, il devait se marrer, il devait se rouler par terre de rire, comme il dit, quand il lit Saint Thomas qui fait des coups logiques, quand il voyait l'autre Fada. Faire le malin et Lacan en plus qui dit oui, je vais vous présenter quelqu'un qui a un grand savoir logique, un savoir logique énorme. Bon, donc tout le monde est là, petit soulier,
Bon, donc Lacan, c'est d'une ironie féroce.
Alors tout ça pour vous dire que quand il revient à Paris, qu'est-ce qu'il dit Gros? Eh bien, vous lirez cette conférence jusqu'au bout. À un moment donné, il pivote, le discours pivote. Il est bien en train de faire une espèce d'apologie de la psychanalyse telle que les psychanalystes la conçoivent tous, et les psychologues aussi, et tout le monde est content. Et on baigne dans le sens, on va interpréter, on va donner du sens. Bon, et il parle de loufoquerie, et il dit une chose importante, il dit une seule chose importante dans cette première partie, notez-le bien, il dit « la psychanalyse, aujourd'hui, a remplacé l'hystérie ». Donc tout le monde croit qu'il parle dans cette conférence de l'hystérie. Il dit dans l'école lacanienne. Ah oui, vous pouvez trouver ces textes dans la bibliothèque de l'école lacanienne de Paris, de Manouche et de Bossé. Lisez ça. Et donc la loufoquerie psychanalytique, c'est quoi? C'est que en rentrant dans la psychanalyse grâce aux hystériques, Freud, il a inventé un truc qui s'appelle la psychanalyse. Le symptôme de la psychanalyse aujourd'hui, c'est une psychanalyse freudienne qui est fondée, qui n'a pas besoin d'être défendue. Et qui remplace l'hystérie. Alors les mecs, vous voyez, il n'y a pas de compétition à avoir avec les neurosciences ou le cognitivisme. Les mecs, les pauvres types en médecine ou en psychiatrie ou en neurologie, ou bien même en informatique avec des robots qui vont se casser la gueule, se cogner contre les murs et qui vont alimenter le programme d'ordinateur, tous ces mecs-là, ensuite, ils prétendent soigner, alors que la psychanalyse, elle a rien à prouver. Je comprends pas qu'on soit aussi timide. Elle a remplacé l'hystérie. C'est tout bon. Enfin, on n'a plus les grandes femmes voûtées qui faisaient le pont dans leur lit d'hôpital à la Salpêtrière du Don Charcot. On a même passé l'histoire de Dubinsky. Aujourd'hui, maintenant, on a des maladies psychosomatiques. Bon, d'accord, c'est le chien de Pavlov. Bon, il y a de plus en plus d'autisme, il y a de plus en plus de paranoïa. Alors ça, on s'en occupe pas. Vous voyez, puisque quoi? Puisque tout le monde se complaît dans une psychanalyse qui serait le substitut de la grande hystérie de la belle époque, de la grande époque. Il faut relire encore le livre de Bachmann, Gérard Bachmann, sur l'hystérie qui est son maître. Enfin, c'était publié par Navarre, c'est très bon. C'est très intéressant comment Babinski, il pouvait déclencher dans son service des crises d'hystérie comme à Loudun, vous savez, avec les nonnes. À telle heure, il décidait de créer un délire hystérique collectif dans sa, comme dans les pensionnats, là, dont parle Freud, vous voyez. À telle heure, il pouvait faire un délire. Hop! Il savait très bien ce qu'il fallait faire et dire pour que tout le service soit sans dessus-dessous. Ça, c'est Babinski. Bon, il raconte ça très bien, Bachmann. Et bien, Freud, il a fait mieux. Il arrive à capter l'hystérie et à la canaliser, et ça s'appelle la psychanalyse freudienne. Alors là-dessus, eh ben, lisez ça, parce que Lacan, qui raconte ça très bien, il dit, ensuite, il passe à autre chose. À quoi il passe? Ben, de quoi il s'agit? Je vais vous le mettre au tableau. De quoi s'agit-il? Il s'agit, dans cette histoire, de bien faire la différence, et c'est ce que nous faisons, ce que nous avons fait là cette année, depuis janvier, février, et là maintenant en juin. Là, en septembre, on va aborder la deuxième difficulté que Lacan a rencontrée dans les derniers séminaires. Et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que l'involution signifiante, ça vient jouer un rôle fondamental dans cette histoire qui se présente comme ça. Et ce texte de Lacan dans Quarto numéro 2, lisez-le, c'est, vous avez un discours programme. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on va appeler le symptôme, qui n'est plus le symptôme freudien, le symptôme. Le symptôme survit très bien avec le symptôme, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la topologie, qui ont dit la topologie c'est une spécialité, c'est une façon de s'en débarrasser. Topologue, c'est pour ça que je disais topologue, c'est pas terrible. Parce que je ne suis pas topologue, c'est la psychanalyse. Mais pourquoi est-ce que. C'est, moi je pose la question inverse, c'est pas pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui font de la topologie? C'est pourquoi il y en a qui ne veulent pas qu'on en fasse. C'est ça même qui est étonnant. Puisque Lacan a proposé de faire ça, c'est dans ses séminaires, c'est dans ses écrits, il en parle, dans les séminaires il fait des crevards, ça. Pourquoi on ne veut pas le faire, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on ne peut pas le faire, On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore pigé la stratégie de Lacan, qui est une stratégie, un traitement de cheval. Puisqu'il s'agit maintenant de s'occuper de la psychose, hein, du crime paranoïaque, qui est devenu crime de masse avec Auschwitz et Hiroshima, et que, effectivement, il s'agit de s'occuper du symptôme que Lacan va définir, la paranoïa, dans le symptôme, dans le séminaire où il parle des droits infinis. Vous voyez, c'est pour ça que ça me fait rire qu'on parle de Joyce, le symptôme. Pas du tout. Joyce, c'est le symptôme névrotique. Ça, c'est un enracinement. Il a raté le croisement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de voir que l'ADI, dont je vous parle il y a un moment, dont il commence à parler dans la troisième, ensuite dans le symptôme, et dont il va reparler que dans la dernière leçon du séminaire, ce qui montre bien que c'est l'entrée dans le langage pour le sujet. C'est là que se fixe l'autisme. L'autiste, il ne veut pas rentrer là-dedans. C'est de la triche. Les parents ne s'entendent pas parler. Les parents ne s'entendent pas crier. C'est le malentendu des parents. Nous sommes tous des produits de ce malentendu en tant que... C'est pas la naissance, c'est, on pourrait dire c'est la naissance au langage. C'est la fonction imaginaire du phallus, hein, de la parade sexuelle, de la parole animale. Mais dans la nature, il n'y a pas de langage. Tout ce qu'on appelle Dieu, le Dieu de la nature, le grand Pan, ne sait pas lire et il n'écrit pas. Lacan se présente toujours en disant que le Dieu de la nature, il ne lit pas les manuscrits de grand corps, les nouveautés, les articles, les revues de mathématiques. Dieu ne s'en intéresse pas. Il ne les lit jamais. Bon, ce n'est pas une raison pour nous de ne pas les lire. Bon, peut-être que c'est une raison si on se croit, parce qu'on est humain et qu'on est l'homme, vu que c'est devenu la science de l'homme, la théologie est devenue la science de l'anthropologie. Descartes, c'est tombé sur la terre, bon, c'est peut-être une raison de ne pas lire Cantor, mais c'est très intéressant. Vous n'avez toujours pas réussi à décrypter le terme, la démonstration du terme de Cantor?
Moi, je peux chercher celle-là?
Oui, vous m'avez dit ça la semaine dernière, que c'était le terme de... Ah, le terme de Lacan.
De Lacan.
Ah oui, le terme de Lacan. Vous l'avez décrypté ou pas?
Mais j'ai lu la vôtre.
Oui, vous avez... Vous
mais
avez
je ne l'ai pas réécrit en français.
Mais vous avez des difficultés encore.
Mais c'est-à-dire qu'il y a des sigles mathématiques qui ne sont pas explicités.
Ah, dans ce que vous avez
reçu. Le point dans le carré, des choses comme ça. Donc si on ne pratique pas le VAPO quotidiennement, on est foutu.
Pourquoi? C'est pas bien passé dans Internet, ça?
Si, c'est très clair. Mais je veux dire, on ne connaît pas la signification de vos sigles.
Ah ben, c'est des significations standards.
Malheureusement,
je les ai définis dans... Il y a d'autres textes.
Voilà, il faut que je retrouve quelque part.
Voilà. Parce que vous avez à peu près tout ce que je vais mettre dans le fascicule zéro de logique.
Ça sort.
Théorie des ensembles, vous l'avez... Non, mais vous avez déjà presque tout.
Oui, oui.
Dans les annexes, par exemple, des formes de sexuation.
Oui.
Dans les
je relis, là.
L'amour du tout.
Oui. Bon,
d'accord.
Promis.
Moi, je me débrouille pour que tout ça soit accessible.
Et cohérent.
Bon, mais s'il y a des grosses lacunes, il faut me le signaler. Parce que je peux ajouter des annexes, des trucs. Petit à petit, je vais constituer...
Ah, par exemple, vous raisonnez modulo n ou modulo x, ça c'est pas évident immédiatement quand
on compare. Oui, je ne dis pas assez tôt, vous avez raison, je ne dis pas assez tôt. Mais ça, je pense déjà corrigé. L'ADI, donc, c'est quoi? C'est le trauma, c'est l'urverdrang, c'est une écriture de l'urverdrang, c'est le dieu. Bon, c'est le phallus. Ici, il s'agit de la fonction phallus, de la parole. N'oubliez pas, encore, il dit, bon, qu'est-ce que c'est que la structure du langage? La structure du langage, c'est le principe d'inertie. Posture Galilée. Principe d'inertie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si vous voulez savoir ce que c'est que le principe d'inertie, faites un petit exercice de mathématiques. Moi, je vous dis, c'est moi qui ajoute, si vous faites un petit exercice de mathématiques, vous allez voir que la parole et l'écrit, c'est pas du tout pareil. Et qu'il y a deux inerties différentes, et qu'il y en a une, c'est dans la parole, c'est la fonction phallique, c'est l'impératif, c'est la vérité, et que cette fonction phallique, c'est la fonction imaginaire du phallus, qui devient symbolique du fait du trauma, du malentendu des parents. Et l'autiste, il ne veut pas jouer ça, il ne veut pas rentrer là-dedans. Donc, curieusement, son corps en prend un coup. Et Lacan nous indique le traitement de l'autisme qu'il faudrait suivre, mais qui n'est pas une technique du corps, hein, comme les médecins peuvent essayer d'en faire. Les médecins qui s'occupent des autistes, ils ont raison d'essayer, ils sont médecins, ils peuvent expérimenter. Je vous ai déjà dit ça la semaine dernière. Et à Lacan, il donne une indication forte à propos de l'autisme, il dit que c'est l'holophrase qui fait rentrer
la dimension psychotique dans l'éducation du débile. Séminaire les fondements de la psychanalyse, 64. Alors, comment l'holophrase ? C'est quand même paradoxal, si vous voulez, qu'un sujet qui ne veut pas rentrer dans le langage, c'est-à-dire dans la fonction imaginaire du phallus symbolique, justement, le symbolique étant spécialement caractérisé plutôt par la métaphore, vous voyez, par le signifiant. Ça, c'est la question du signifiant, du côté des oreilles, la parole. Eh bien, c'est justement dans l'holophrase où il n'y a pas l'articulation, où il s'agit d'un couple de signifiants figés, le chien de Pavlov, quoi. C'est en rencontrant, en se rendant compte de ce que c'est qu'une holophrase, comme au feu, au secours. Hein, je vous ai raconté, moi j'en avais une très jolie dans mon enfance, c'était ma grand-mère qui parlait toujours d'une manière émerveillée du foie de veau. Un jour, mon grand-père qui rentre à la maison et qui dit « Ah, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Alors, j'avais entendu parler qu'on mangeait du foie de mouton, parce que c'était moins cher. Et alors, je dis au grand-père « On va manger du foie de veau de mouton. » C'est débile, le gamin. Donc, je n'étais pas autiste, mais je suis sorti de l'autisme grâce à des conneries comme ça, comme tout le monde. Oui.
Moi, j'ai une question un peu de logique. Comment peut-on parler du sujet de l'autisme vu qu'il n'entre pas dans le langage et que le sujet est produit par le langage ?
Ben justement, c'est pas vraiment un sujet, ça va faire que du moi. Mais ça marche mal du côté du moi, même les identifications. C'est ça ce que je suis en train de vous mettre au tableau. On va y aller doucement, mais qu'est-ce qu'on va rencontrer tout de suite ici ? On trouve le trauma, c'est l'entrée, et puis l'incorporation. L'incorporation, c'est faire rentrer un corps du symbolique, un corps de langage, dans le corps naïf, au sens naïf. Ça rentre par les oreilles. Mais ensuite, Lacan ajoute immédiatement que le corps du symbolique, le corps de langage, il tient au corps naïf, par les incorporels. Et ça, c'est le lieu, non plus de l'autisme, mais c'est le lieu de la paranoïa adulte. Le paranoïa qu'il a, vous voyez, faire rentrer la dimension psychotique, c'est-à-dire la rencontre avec les incorporels qui vont être rejetés par le paranoïaque, la fameuse forclusion. Ne confondez pas la forclusion du nom du père, du signifiant du nom du père qui est donné par la mère dans la métaphore paternelle, le signifiant du nom du père, c'est des incorporels, c'est ce que l'étranger ne peut pas comprendre. C'est la manière dont ma mère fait, je ne sais pas moi, chocolat ou risotto, ça dépend des familles. La manière dont la mère enseigne à l'enfant de se laver, de manger, de dormir, de nager, de danser, toutes ces choses qu'on apprend dans la famille, il y a des noms du père, c'est-à-dire, je vous dis, le manuel d'ethnographie de Marcel Mauss est un manuel qui vous indique tous les lieux ethnographiques où vient se glisser le nom du père, dans toutes ses fonctions. Lui, il écrit ça pour les ethnologues, pour qu'ils ne laissent rien passer, qu'ils notent comment les gens. Et Lacan fait remarquer d'ailleurs dans le manuel d'ethnologie que l'onanisme, c'est technique du corps, c'est la même chose que la natation ou la marche à pied. Hein, et que l'ethnologue, il peut aussi noter ça. Et que on ne sait pas tout ce qu'on. Où ça peut se glisser cette fonction des choses qui sont extraordinaires pour le sujet, indispensables pour ça, la vie du corps, et son traitement du territoire, et la pudeur, et qui en même temps sont impossible aux autres de comprendre avec autant d'intérêt. Ça veut dire que les autres, ils s'en foutent parce qu'ils ont les leurs. Et on ne peut pas lutter contre le nationalisme, le racisme, les exclusions, la xénophobie, déjà, si on ne reconnaît pas cette dimension du nom du père. Donc déjà, c'est une question qui est très importante. Et bien, le nom du père, c'est complètement opposé, parce que le nom du père, c'est ça, c'est le nœud borroméen que Lacan écrit. Pourquoi ? Parce que le nœud borroméen, ça, c'est le nom du père, c'est pas donc la fonction phallique, ici, c'est la fonction paternelle. Voilà, la fonction paternelle, ici, c'est pas le signifiant, c'est le nom du père. Et c'est pas le signifiant du nom du père, seulement. Le nom du père, la fonction du nom du père. Bon. Lacan, dès son séminaire, la troisième année de son séminaire, il a introduit le déclenchement du délire comme la rencontre de ce signifiant du nom du père qui n'est jamais venu à cette place. Ça déclenche le délire. Et donc Schermak, il a tout de suite écrit plusieurs communications dans lesquelles il montrait qu'effectivement, dans le déclenchement du délire,
d'après l'indication de Lacan, il y a du père. Donc Germain, il a cru bien faire, il voulait prouver que Lacan avait raison, et c'est toujours les gens qui... c'est sympa, mais le bon vieux, il n'a pas compris pourquoi Lacan ne favorisait pas autant que son gendre, qui avait épousé sa fille. Moi, je vous dis qu'il ne l'a pas favorisé. C'est un piège à con. Bon, le mec, il peut peut-être être très fier et très fanfaron, mais de toute façon, il doit en baver des ronds de chapeau. Parce que de toute façon, il est quasiment écrasé par le processus. Schermann, lui, il est un peu jaloux, alors il s'est mis du côté de l'allemand. Voilà. Le déclenchement du délire, c'est une chose. Fortlusion du signifiant du nom du père. Le signifiant qui est fort clos, il vient un jour, il saute au nez du paranoïaque. On le comme ça. Bon, alors Freud, pourquoi Freud, c'était l'homophobie qu'il avait noté comme étant, parce qu'aujourd'hui on appelle ça l'homophobie, c'est-à-dire l'homosexualité, le rejet de l'homosexualité qu'il avait noté comme causalité de la psychose. Pourquoi ? Et bien justement parce que ce rejet des incorporels, ce rejet du nom du père, ce rejet de ces choses que l'étranger ne peut pas comprendre, d'après les stoïciens, et Deleuze, il peut en parler des tonnes dans la logique du sens, hein. Il n'a pas du tout capté le truc, il n'a pas lu Lacan. Il a lu la planche. Il le dit à la fin d'une note, et Nassif a repris ça ensuite l'année suivante dans le séminaire, après la fin des 60, dans les deux communications de Nassif. L'une sur le séminaire, la logique du fantasme, et une autre sur Deleuze, la logique du sens, et puis différence et répétition. Bon, il a tout capté les titres de Deleuze, mais il fait du Deleuze, ce qui est très très bien. Deleuze, moi j'aime bien lire Deleuze, mais c'est assez loufoque aussi. Et je vous dis, il y a une antenne à Saint-Denis, hein, où si vous n'arrivez pas à lire le différence et répétition, il y a une réunion hebdomadaire organisée par les profs de philo à Saint-Denis, où vous pouvez aller. Tous les gens qui ont des questions à poser, qui viennent expliquer leur incapacité de lire le différence et répétition de Deleuze, peuvent y aller. Ils essayent de réunir tous les problèmes, parce que personne n'y comprend rien. Moi je dis que personne n'y comprend rien, parce qu'il n'y a rien à comprendre, il faut le lire. Bon, comme le dit Méchanique, ça nous constitue. Alors Deleuze, c'est pas mal, hein. Bon, en dehors du fait qu'il est vitaliste, que ça va du Cédric, ça va. Que c'est une catastrophe, parce qu'il croit, lui, peut-être que le dieu de la nature sait lire, et que les animaux savent lire et écrire. Spinoza, c'est pas une question complètement idiote, puisque Spinoza se posait la question, il regardait les toiles d'araignée, il regardait l'araignée travailler, il se demandait qu'est-ce que c'était que cette activité de l'araignée. Est-ce qu'elle fait de la géométrie? Est-ce qu'elle sait écrire, l'araignée? Et, hein, donc, c'est une question qu'on peut se poser. Mais Lacan, il dit ça, depuis Aristote, on croit que le dieu de la nature sait lire. Ben, c'est une erreur qu'on retrouve chez Kant, qui croit aussi. Donc, aujourd'hui, toute la civilisation croit. C'est pour ça qu'il y a des neurosciences. On pense que c'est comme ça qu'on va régler le problème de langage. Et vous voyez, il dit, même Goethe le croyait, il a ramassé un crâne dans le Lido de Venise, il l'a regardé, il a dit... William Munster, son roman est sorti tout écrit de ce crâne. Et il dit, Lacan, il nous dit, ça c'est la dernière leçon de l'identification, au moment où il parle de Blanchot. Dans la suite, il nous dit, mais c'est tout à fait différent. Il nous dit, eh bien ça c'est Jung. Justement, il fait bien la différence entre ceux qui croient que la nature sait lire et puis ceux qui pensent que la nature, elle ne lit pas. Et que nous lisons, et que lire, c'est inventer, écrire, c'est inventer, et que c'est différent de la parole. Donc là, il s'agit de quelque chose qui est plus du côté de la fonction paternelle, et de cette histoire de fortlusion. La fortlusion chez Freud, c'était que, ben, il l'a vu, lui, très nettement, c'est un truc massif, avant de voir l'importance que ça a, la paranoïa dans l'antisémitisme, parce que les antisémites, c'est évident que c'est de la paranoïa. Il ne supporte pas un peuple qui écrit sans voyelle et qui invente ce qu'il lit, qui a plein de lectures possibles. Vous voyez, la paranoïa, la définition de la paranoïa, de la fortlusion, c'est service compris, pas d'appréciation de la clientèle, il faut lire, faut coder. Il ne faut pas lire, il faut coder. Tout doit être écrit. Sinon, c'est de la triche. Alors moi, je ne vais pas faire une apologie des escrocs, hein, mais... Mais quand je dis que c'est quand même mieux la lecture où tout n'est pas compris dans le prix du billet, il y a de la négociation possible et de l'appréciation, Ça veut dire qu'il y a aussi une dimension éthique qu'il faut rajouter. Bon, c'est ça qu'on oublie. Comme de toute façon, l'éthique, ils n'en ont rien à foutre, ils s'essuient les pieds dessus. Personne n'est intéressé par l'éthique en psychanalyse, puisqu'on accepte n'importe quel fou comme analysant sans s'occuper des entretiens préliminaires. Alors, comment voulez-vous qu'on arrive à ce qu'il y ait une psychanalyse dans ces conditions? C'est loufoque. Bon. Donc, Freud, il a repéré bien cette haine de la lisibilité dans l'homophobie, c'est-à-dire dans le fait que le sexe, d'accord, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a deux sexes, mais paraît-il qu'il y a un organe qui serait l'indicateur, c'est visible, c'est positif, il y a un indicateur positif, on devrait le reconnaître. Vous pourrez remarquer que Lacan, lui, il nous raconte qu'il a rencontré un chauffeur de taxi à qui ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Il a posé la question. Au séminaire, il raconte ça. J'étais dans un taxi, le chauffeur, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Alors, je lui posais la question.